Carte blanche sur Divergence FM 93.9, carte blanche aujourd'hui lundi jusqu'à 20h pour parler du logiciel libre. On est en compagnie d'Albert Bruck, de Jean-Claude Stiegler et d'Anthony. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, le logiciel libre, toute une histoire, on en parle assez souvent sur Divergence FM. On va peut-être bien commencer par vous présenter chacun votre tour. On va peut-être commencer par Albert Bruck. Je t'avais reçu pour parler bien des journées de deuxième journée du libre à Montpellier. Tu es le rédacteur en chef de French Linux, linuxfrench.net. Et puis, je crois que tu es administrateur réseau dans la vie civile, c'est ça ?
Je suis administrateur réseau, effectivement, mais je suis aussi graphiste. Et c'est en fait mes deux occupations principales.
Professionnellement ?
Professionnellement.
Voilà, bénévolement, tu t'occupes de linuxfrench.net, un site internet dont l'adresse je viens de la citer, ça c'est contenu dans le nom. Aussi partie de linuxfrench.net, eh bien Jean-Claude Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à militer pour le libre?
Ah ben moi, je suis de formation électronicien, mm-hmm. mais je suis nettement plus âgé que mes camarades. Et j'ai démarré dans ma carrière professionnelle dans les années, début des années 70. Mm-hmm. Je suis devenu informaticien dans ce cadre-là. À l'époque, c'était la C2I. Ça a disparu depuis longtemps. Maintenant, c'est la bulle. Et j'ai quitté l'informatique. Je suis revenu à l'informatique il y a une dizaine d'années comme utilisateur. C'est-à-dire mm-hmm. que moi, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un administrateur système. Mais par contre, les logiciels libres, pour moi, ont tout de suite été, lorsque j'en ai eu connaissance, mm-hmm. d'un grand intérêt, parce que la définition même du logiciel libre, c'est l'informatique pour tous, mm-hmm. pour tout un chacun. Et c'est ça qui en fait un projet grandiose.
Mm-hmm. Avec nous aussi, Anthony, de l'espace culturel multimédia Diago Kawenga, de Montpellier. Bonsoir, Anthony.
Bonsoir. Ouais.
Alors, quels sont, on va peut-être rappeler à ceux qui ne le savent pas déjà, quelles sont tes responsabilités, tes casquettes à l'ECM?
Ouais, elles sont assez nombreuses. En gros, je fais de l'administration réseau et système à l'ECM, mais j'essaye surtout de montrer aux gens qui viennent, aux différents membres, qu'il existe autre chose que Windows. Mm-hmm. Et c'est pas facile comme travail au quotidien. Donc, en fait, tous les ordinateurs à l'ECM sont sous les deux systèmes et on organise différents événements cette année autour de Linux et du libre en général.
Mmh. Alors, on va démarrer peut-être par faire un petit peu de vulgarisation, peut-être un retour historique sur le fait que ben les années 50 aux années 70 ont été des décennies qui correspondraient plus ou moins à l'antiquité de l'informatique. Avec des ordinateurs qui pesaient plusieurs tonnes, qui coûtaient plusieurs millions de dollars, qui prenaient plusieurs mètres ou dizaines de mètres cubes de volume. En plus, à l'époque, ils étaient tous incompatibles les uns avec les autres. Le logiciel était alors livré souvent avec son code source et sans restriction particulière. Ce qu'on cherchait à vendre était le matériel. De toute façon, chaque fabricant, voire chaque modèle était incompatible avec les autres. Enfin, les acheteurs de ce genre d'équipement, étaient toujours de grands compte qui était en position d'obtenir des droits sur les outils qu'on développait pour eux. À cette époque, la liberté du logiciel ne posait pas de problème. Dans certaines organisations, c'était même une évidence. Par ailleurs, à cette époque, la mode était au partage et à la communauté. C'est dans ce contexte que s'est formée la culture de l'informatique et que sont apparues des communautés comme celle du MIT ou de l'université de Berkeley. Il faut dire qu'à la fin des années 70, le contexte économique s'est mis plus ou moins à changer. Le développement des mini-ordinateurs et l'apparition des micro-ordinateurs ont ouvert la porte à une informatique de grande distribution. Par ailleurs, les logiciels pouvaient dorénavant être multiplateformes grâce au développement de langages standardisés et de haut niveau comme le C, par exemple. Alors que le prix des machines diminuait, le logiciel prit de plus en plus d'importance au point de devenir l'élément principal d'un système informatique. Ça, c'était l'âge d'or de l'informatique. Puis des multinationales sont nées, des étudiants marginaux sont devenus milliardaires en quelques années. Une période qui fut aussi celle de la naissance du logiciel libre en tant que mouvement promu par des universitaires et incidemment soutenu par des projets nationaux américains comme l'ARPANET par exemple. En effet, aux États-Unis, les projets payés par le contribuable doivent appartenir au contribuable, c'est-à-dire au domaine public. Enfin, dans le milieu des années 90, le public commence à prendre conscience du pouvoir immense que possèdent les multinationales du logiciel en contrôlant les outils de production du monde industriel. La suite est de l'actualité. Peut-être une réaction à ce petit historique, peut-être incomplet.
Non, il n'est pas du tout incomplet. C'est en gros ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années. Ce qu'on peut dire, c'est que l'informatique, la micro-informatique est arrivée dans les années 80 grâce à un Anglais qui s'appelait Sinclair, qui a été d'ailleurs après fait Lord par sa gracieuse majesté.
Lord Sinclair, que tout le monde connaît bien.
Que tout le monde connaît bien. Ça a été la première machine grand public, très peu chère. Elle coûtait à l'époque moins de 2000 francs, donc 150 euros. Et ça a été vraiment la première machine qui a permis à l'utilisateur de découvrir ce qu'était un ordinateur. Et depuis ce temps-là, les machines ont cessé d'évoluer pour le grand public. On en a eu plusieurs. Ça a passé par l'Amiga, l'Atari, enfin des noms qui disent encore des choses à pas mal d'informaticiens. Et maintenant, on en est venu à deux machines principales qui sont d'un côté les PC et compatibles, qui ont été à la base créés par IBM, mais qui a oublié de déposer les brevets. Donc, tout le monde en a créé les compatibles. Et Apple, avec ses Power Mac, et voilà.
Alors ça c'est un petit peu le côté historique. Il faut bien préciser pour ceux qui nous écoutent qui sont peut-être pas trop au courant que le libre en fait ce sont des logiciels ou des plateformes qui en fait sont le fruit d'un travail communautaire souvent bénévole. Est-ce que ces logiciels et ces plateformes ont été amenés par des gens qui étaient bien implantés professionnellement dans la sphère informatique et qui se sont dit oh, finalement quand même on bosse pour des boîtes qui génèrent des profits faramineux à partir de textes ou de choses très immatérielles, il faudrait peut-être qu'on ouvre la porte à cette connaissance, à ces produits pour que finalement tout le monde puisse en profiter parce que nous on considère que ça devrait pas coûter aussi cher. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là au départ ?
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant du MIT et des gens qui créaient les premiers programmes, au début, les codes sources étaient ouverts. Et effectivement, il n'y avait que le matériel qui importait, qui était intéressant. Et des chercheurs, dont un qui travaillait au MIT, qui s'appelait Richard Stallman, RMS, lui s'est dit, effectivement, maintenant que les ordinateurs sont devenus quasiment grand public, et il était beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, parce qu'il coûtait beaucoup moins cher là-bas. Pourquoi garder un code fermé, dont on ne connaît pas ceux qui le construisent, alors que ça devrait profiter à tout le monde.
Alors, il faut savoir que le code source, c'est le langage dans lequel est écrit un logiciel, que ça soit un système d'exploitation ou que ça soit un logiciel, une application standard, et que, bien évidemment, pour les questions de protection des droits, pour les questions de commerce, la plupart des éditeurs de logiciels aujourd'hui vendent leurs produits, même si le produit n'est pas tout à fait finalisé. Là, je renvoie aux utilisateurs de Windows, qui sont forcément très nombreux à nous écouter, et qui, s'ils ont une connexion permanente à Internet, n'ont qu'à prendre à témoin le nombre de fois où Windows fait un update automatiquement, si on le lui laisse faire auprès de Microsoft, pour ajouter des patchs ou des ajouts au logiciel pour supprimer telle ou telle faille, tel ou tel problème. Finalement, on est très loin de gens qui feraient un logiciel qui marche et qui le vendraient aux gens en disant hey, « Regardez, super, ça marche !» On a l'impression que c'est un petit peu le contraire aujourd'hui. Est-ce que c'est une logique commerciale derrière qui a fait que écoutez, si notre truc tombe en panne systématiquement, du moment qu'on arrive à le caser à tout le monde sera obligé de venir chez nous pour le faire réparer.
Oui, et là, en fait...
Ça, c'est un peu caricatural, j'imagine.
Oui, c'est un peu caricatural. En fait, il y a deux problèmes. D'un côté, le logiciel propriétaire qui, en fait, est fourni, et le logiciel propriétaire, en général, on fournit le binaire. Le binaire, c'est-à-dire l'exécutable. Le libre, on vous fournit aussi un exécutable, mais derrière, on va aussi vous fournir le code qui a servi à le construire, qu'on appelle donc le code source. Et si jamais vous trouvez une erreur sur le code source, vous allez, si vous avez les compétences, pouvoir vous-même le corriger. Donc, et comprendre son fonctionnement. Par exemple, ce qui a été reproché à une époque à Windows, ça a été le fait qu'il y avait des informations qui sortaient du système, qu'on a appelé à l'époque la NSA Key. Il envoyait en fait des informations qui, semblait-il, partaient vers la NSA. Ça n'a pas pu être prouvé, mais le problème était là. Et personne ne pouvait réellement savoir, vu qu'on ne possédait pas les sources du système, si cette clé-là était bien, faisait bien ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire envoyer des informations à la NSA ou pas. Donc, le problème est là. Si on avait eu un logiciel avec ses sources, on aurait pu savoir exactement ce qu'il avait fait. Et dans le logiciel libre, l'avantage d'avoir du code source, c'est justement de savoir exactement ce qui est fait par le système et à quel endroit. Et si jamais une erreur, de la corriger.
Anthony, tu voulais...
Non, juste une, ouais. Par rapport au code source, pour les profanes, en fait, c'est un peu comme la recette du gâteau. J'aime bien l'analogie qui est faite là-dessus, pour les gens qui connaissent pas, qui connaissent rien en informatique. Mmh. En gros, on vous donne avec le gâteau la recette pour le faire.
D'accord.
Tout à fait.
Donc ça permet à chacun de, d'en modifier un petit peu le contenu pour son, pour son, pour son intérêt propre. Or, tu parlais de la NSA. La NSA, c'est le National Security Agency. Une agence d'ailleurs dont on a nié l'existence, je sais pas, même pas si on la nie toujours au
non,
niveau.
Non,
ça, plus, ça y est. Ouais. C'est comme Echelon. Alors Echelon, c'est aussi un système d'écoute planétaire qui est susceptible de capter toute transmission qui est faite, en tout cas dans l'hémisphère nord, les fax, les numéros de téléphone, les coups de téléphone, les courriers électroniques, etc. Alors est-ce que Bill Gates est accoquiné avec les agences de sécurité internes ou externes américaines? Ça, on peut pas trop. On peut pas trop le dire. En tout cas, Bill Gates avec Windows, il a quand même trusté un petit peu le marché qui s'ouvrait alors pour vendre des systèmes d'exploitation aux gens.
Bah, ce qu'on peut dire de Bill Gates, c'est qu'il a saisi l'oiseau au vol, on va dire. Je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Il s'est dit que l'informatique a été en pleine évolution. Il a su saisir le cheval au bon.
Oui.
Et il a très bien travaillé de ce côté-là, Bill Gates, on peut pas lui en vouloir. Mais bon, il a créé un système qui est propriétaire, mm-hmm. dont on ne peut rien modifier, qui a des imperfections, qui est sensible au virus, mm-hmm. malheureusement, alors que jusqu'à présent, Linux ou les logiciels libres, eux, ne le sont pas.
Mm-hmm. Alors d'où ça vient ça pour des spécialistes comme vous? Parce que les gens se posent peut-être la question, comment ça se fait que y a des gens qui gratuitement mettent à disposition ou en tout cas distribuent des produits qui marchent parfaitement, qui n'ont pas de failles? Parce que faut quand même rappeler que l'ordinateur, c'est le méta-outil par excellence, c'est finalement l'outil qui peut faire ce qu'on lui demande. Donc on dit souvent un ordinateur ne se trompe jamais. S'il se trompe, c'est qu'on lui a demandé de faire quelque chose de pas bien, quoi.
C'est tout à fait juste. Mm-hmm. Un ordinateur se trompe que fort rarement. Faut dire mm-hmm. Quand il se trompe, c'est que la machine est défaillante matériellement. Quoi. Mais pour revenir à ce que vous disiez, la grosse différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire, c'est que une entreprise qui développe un logiciel est motivée par évidemment un chiffre d'affaires. Mm-hmm. Lorsqu'on a sorti un logiciel, quelle que soit l'entreprise commerciale concernée, c'est Microsoft comme n'importe quelle autre, pour pouvoir conserver ce chiffre d'affaires, il faut sortir une version pas trop longtemps après. C'est-à-dire ouais. que c'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans, mais c'est rarement plus, parce qu'après, ça pose des problèmes financiers à la santé de l'entreprise. Donc, on se concentre sur la mise au point de nouveaux produits, de nouvelles versions. Or, le suivi des anciennes versions coûte extrêmement cher. Répondre à une faille, enfin corriger une faille logicielle dans un logiciel qui a 5 ou 6 ans, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui soient capables de le faire. Mm-hmm. Parce que ça coûterait très très cher. Or, dans les logiciels libres, on est dans une logique complètement différente. Étant donné que le code du logiciel est ouvert, chaque informaticien qui va utiliser un logiciel sera à même de se rendre compte s'il y a une faille, de la situer cette faille. Et éventuellement de la corriger s'il en a la compétence, comme le disait Albert tout à l'heure. Mmh. Ce qui fait que plus un logiciel libre est utilisé dans le monde, plus il y aura des gens pour dire « là, il se passe ça ou ça et ça va pas ». Et en général, ces gens qui savent le dire vont aussi trouver le moyen de corriger ce défaut. Donc ce défaut va être corrigé. Très souvent, c'est l'espace de quelques heures. Il suffit de voir des logiciels comme les logiciels de serveurs, tel qu'Apache, par exemple, qui est un logiciel libre et utilisé, c'est une pièce maîtresse dans le monde de l'informatique, enfin de l'Internet, eh bien, quand il y a un trou de sécurité dans Apache, il est très vite comblé. Mm-hmm. On ne peut pas en dire autant des logiciels propriétaires dans le même domaine. Hein, je ne m'étalerai pas sur leur performance, mais le fait que, par exemple, Microsoft ait vu son serveur complètement détraqué il y a quelques jours à cause du dernier verre qui s'appelait Slammer. C'est assez rigolo parce que Microsoft avait, paraît-il, publié le correctif pour éviter la propagation de ce verre et il n'était pas appliqué chez eux.
Voilà. Pour dire que un logiciel libre, son très gros avantage, c'est non pas qu'il n'y a pas de faille dedans, ça on ne peut, personne ne peut le prétendre, personne ne peut dire on va faire un logiciel parfait d'emblée. Mais par contre, c'est la très très grande réactivité des utilisateurs qui va faire que très vite, on a des logiciels qui sont sécurisés quand on découvre une faille.
Alors voilà. Bon, alors pourquoi les gens au jour d'aujourd'hui n'ont pas tous opté pour du libre ? Car il faut aussi souligner que le libre est très souvent gratuit, voire ou alors pas cher du tout. À titre d'exemple, la version française, je crois que c'est Mandrake qui est fournie pour à peu près une centaine d'euros, comprend à la fois le système d'exploitation plus à peu près tous les logiciels possibles et imaginables, que ça soit du traitement de texte, du multimédia, de la retouche d'image, etc. Alors que si on est sur Windows, il faut quand même lâcher un petit peu plus d'une centaine d'euros pour le système d'exploitation. Et puis, il faudra lâcher le prix de Photoshop, il faudra lâcher le prix de la suite Office de chez Microsoft qui est pas donné du tout. Enfin, alors pourquoi les gens l'ont pas fait. Il y a un assez bon exemple qui est donné que j'ai trouvé sur internet. Il s'agit du clavier dont j'ai oublié le nom.
Dvorak.
Voilà, du clavier de Dvorak qui est en fait un clavier matériel ou avec une disposition des lettres qui ressemble pas du tout. Mais alors pas du tout ni à l'AZERTY ni au QWERTY. Il faut savoir que le clavier d'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui a été développé parce que à l'époque où on avait des machines mécaniques avec des balais qui venaient frapper la feuille de papier, certains opérateurs ou opératrices de saisie tapaient tellement vite que les balais s'entrechoquaient et se coinçaient. Alors pour cette raison, on a développé le clavier AZERTY ou QWERTY, je ne sais plus lequel, mais ils se ressemblent. Les deux, pour ralentir matériellement la vitesse de frappe des personnes qui faisaient la saisie, afin qu'elles puissent ne pas aller plus vite que la machine ne pouvait le faire. Donc aujourd'hui, qu'on a des ordinateurs où il n'y a plus ces problèmes mécaniques de tiges de fer qui se touchent avant de toucher le papier, on se demande bien un petit peu pourquoi. Et donc, un étudiant a publié sur Internet un texte là-dessus, et lui, il pointe le fait que c'est simplement parce que les gens ont du mal à changer leurs habitudes. C'est-à-dire qu'il y a ça doit perturber leur sentiment de sécurité ontologique profond de se dire je vais changer, alors je vais abandonner Windows, comment je vais faire, ou alors je vais changer le clavier, les lettres seront plus au même endroit. Et même s'il faut que 15 jours ou 3 semaines pour s'adapter à ce nouveau clavier qui permet en effet de frapper beaucoup, beaucoup plus vite, c'est sans doute cette prise de risque. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous trois, vous avez vu? Je sais qu'à l'ECM, à Montpellier, on fait beaucoup d'initiations à Linux. Est-ce que les gens qui viennent s'y intéresser présentent cette espèce d'appréhension devant le changement des habitudes?
Alors, pour en revenir à l'utilisateur qui arrive chez nous, en fait, même le profane en informatique, moi, j'ai remarqué, en fait, qu'il y avait une culture informatique, même chez la personne qui n'avait jamais touché un ordinateur, de par la publicité, de par les films, les médias, enfin, les différents vecteurs. Et la personne qui arrive à l'OCM et qui n'a jamais touché un ordinateur a déjà une idée de ce qu'il va trouver. Mmh. Et c'est vrai que l'interface de Windows, elle est dans les esprits, elle est pratiquement ancrée dans les esprits avant. Ce qui est rigolo, c'est que quand je passe un ordinateur sous Linux, aujourd'hui, avec l'interface qu'a Linux, les gens presque ne remarquent pas la différence. Mmh. Au premier abord, quand ils voient l'interface, les icônes, etc., ils ont l'impression... Par contre, quand ils commencent à toucher, là, on sent qu'il y a une différence. Mmh. Et rien que sur Windows, à faire le parallèle entre Netscape et Internet Explorer, déjà, la personne qui va sur Netscape a une autre approche du logiciel. Mmh. Les gens qui me posent des questions, enfin, les gens qui sont, c'est des curieux, en fait. Les gens qui passent sous Linux, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet, une curiosité à la base.
Alors, cette curiosité, elle va peut-être être augmentée de ce qu'on va dire. Je crois que, Jean-Claude, vous nous avez préparé un petit peu de travail sur une menace qui plane sur le monde de l'informatique, à savoir le TCPA Palladium. Carte blanche au logiciel libre sur Divergence FM, en compagnie d'Albert Brugg, Jean-Claude Stiegler et Anthony de l'ECM Kawenga. Alors avant de parler de cette menace TCPA Palladium qui plane sur nous tous, et vous toutes, et vous toutes qui nous écoutez, peut-être un retour sur le logiciel libre pour que ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu. Financièrement, comment ça peut marcher? On comprend aisément que les gens qui font les choses bénévolement sont pas payés pour, donc ça génère très peu de frais. Mais après, c'est vrai qu'il y a des distributions, je parlais de Mandrake, la distribution française de Linux. Comment ça marche? Est-ce qu'ils arrivent quand même à s'autofinancer?
En fait, c'est un modèle économique qui est quand même tout à fait nouveau, malgré tout. Et Mandrake, comme les autres distributions professionnelles et commerciales, s'en sortent en fait par le service. Le système étant lui-même libre, en fait, ils assurent leurs revenus par le service, c'est-à-dire par l'installation, par des solutions adaptées aux entreprises et par des développements qu'ils font eux-mêmes.
Donc, ils apportent le savoir-faire qu'ils ont.
Tout à fait.
Comme activité commerciale principale, entre guillemets.
Tout à fait.
Alors, ça, c'est. Là, je faisais allusion à Mandrake, qui est une distribution.
Française.
Française et payante. Il y en a d'autres qui
Mais
sont.
Elle est aussi téléchargeable pour tout un chacun, gratuitement, si vous avez un accès au net, ou alors vous pouvez l'acheter dans les magazines. Dès qu'il y a une distribution Mandrake qui sort, une nouvelle, vous pouvez l'acheter dans les magazines Linux, il y en existe
voilà,
plusieurs.
Ou c'est offert en bundle avec le magazine, voilà. Etc. Alors, pour parler un petit peu technique, Linux en fait ça a été construit sur Unix qui n'est pas un système libre. Linux en fait c'est un Unix libre en quelque sorte qui donne lieu à des distributions payantes ou pas, que ce soit Red Hat, Mandrake ou Debian. Quelles sont les différences entre ces différentes distributions?
Alors la différence qui est entre les distributions, c'est la manière dont sont organisées déjà le système, c'est-à-dire par exemple sur Debian, on utilise un système de package. Alors en français,
des paquets,
Pactage logiciel.
Un pactage logiciel, merci. C'est qu'on a l'habitude de faire des anglicismes. S'appelle les points deb, qui permet en fait à l'utilisateur d'aller récupérer ses programmes très facilement. Red Hat et Mandrake ont adopté un autre système qui s'appelle RPM. Et d'autres distributions, on utilise d'autres. Il y a Gentoo qui utilise un système qui s'appelle Portage. Et il y en a d'autres distributions aussi, comme les versions de BSD qui utilisent des systèmes de port, etc. C'est vraiment très varié. Mais en fait, les distributions, c'est plus que Linux déjà. Linux en lui-même, c'est le noyau, c'est le cœur du système. Les distributions viennent et apportent des applications tout autour. Et c'est ça en fait une distribution, c'est un plus, un savoir-faire, c'est une expérience autour du noyau qui est Linux. La distribution c'est ça en fait.
Alors un des avantages de Debian par exemple, c'est que lui il est entièrement développé par une communauté de personnes, je crois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui collaborent de par la planète sur la solution, la distribution Debian. Son inconvénient c'est qu'il n'y a pas de support. Donc l'avantage de Mandrake par exemple, c'est qu'il y a un support, on peut contacter quelqu'un pour dire ah ben là tiens j'aimerais faire ci, comment je fais.
L'avantage de Mandrake, si vous êtes une société, c'est que quand vous utilisez un système informatique, et Windows le sait très bien, Bill Gates sait très bien, vous avez toujours besoin d'un service pour vous aider, donc on va vous facturer en général. Et avec la Debian, qui est une distribution excellente, ça n'existe pas. Donc, comme une société, vous avez besoin d'avoir une aide.
Bah oui,
un service technique, un service après-vente. Donc, il existe des distributions qui proposent ce service et qui, en plus, permettent donc à Linux aussi de rentrer dans le monde professionnel ou même dans les écoles ou dans les administrations. Ce qui est impossible à faire avec une distribution communautaire parce qu'elle n'a pas derrière un suivi.
Oui, moi je voudrais quand même apporter une précision parce que il y a donc les distributions commerciales telles que Red Hat, Mandrake et SUSE et encore quelques autres, et puis la définition communautaire par excellence qui est Debian. La très grosse différence au niveau de la diffusion de ce type de distribution, c'est qu'un projet Debian peut difficilement avoir de l'écho auprès des administrations, justement parce qu'ils ne pourront jamais amener ce support technique. Or, une société comme Mandrake ou comme Red Hat, il faut aussi savoir que bien qu'étant tout à fait commerciale, elle participe elle-même au développement des logiciels libres dans plusieurs projets. Donc, elles sont très très actives. Ce qui se traduit sur le plan technique, par exemple, avec une Mandrake aujourd'hui, et je pense que de ce point de vue, c'est la plus performante aujourd'hui, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous voulez installer Linux, vous avez de fortes chances d'y arriver sans la moindre difficulté, même si vous n'y connaissez rien. Si on prend une Debian, qui a 2 ans de retard à peu près par rapport au dernier matériel proposé dans un ordinateur, eh bien ça risque d'être beaucoup plus délicat. Donc le côté des distributions, la différence entre les distributions commerciales et les distributions purement communautaires, il est là aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour les entreprises, c'est pour tout un chacun. Moi, j'achète une machine, je vais pas acheter une vieille machine, je vais acheter une machine neuve, je veux installer dessus un système Linux, j'ai besoin d'une distribution qui s'installe facilement. Linux n'est pas fait pour les spécialistes, il est fait, le but du logiciel libre, par définition, c'est pour tout un chacun. Ce n'est pas pour... simplement des professionnels.
Voilà, 04 67 66 33 33. Je crois que quelqu'un est à l'autre bout du fil pour nous poser une question. Allô ?
Oui.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute.
Bonjour, excusez-moi, je suis à l'antenne.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a un décalage avec Internet. Je suis un petit peu loin.
D'accord.
Je m'appelle Erwan, j'appelle de Tokyo. Je suis rédacteur à linuxfriend.net.
Tout à fait. Tout à fait, oui.
Voilà.
Albert me confirme.
Donc, j'en profite pour saluer Albert et Jean-Claude.
Merci.
Voilà. Et je voulais insister aussi sur l'importance des logiciels libres. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de... On parle de l'informatique, mais pour les gens qui connaissent rien du tout à l'informatique, je voudrais quand même noter que l'informatique, c'est ce qui gère l'information. Et l'information, ça concerne tout le monde. Donc si demain l'information est contrôlée par une boîte comme Microsoft, IBM ou Sony, là ça va être grave. Et donc justement, les logiciels libres, ça garantit que l'information ne sera pas contrôlée par une entreprise, par un consortium. Et parce que si ça arrive, on est coincé. Donc c'est ça, les logiciels libres, c'est la chance pour tout le monde, parce que maintenant l'information, elle est partout. C'est la chance pour tout le monde de garder cette liberté qui est fondamentale.
Exactement. Ben, on vous remercie d'appeler d'aussi loin. Est-ce que le signal de divergence est bon ?
Oui. Alors, c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris au début, parce que comme j'ai une liaison bas débit, il y a du cache, et j'avais un décalage de quelques minutes.
Ouais, c'est...
Mais sinon, ça marche très bien sur Internet, même sur une liaison sans fil... au Japon.
Ben, merci beaucoup de nous appeler d'aussi loin. Je pense que de toute façon, on va évoquer ce problème philosophique carrément,
oui,
avec justement la menace TCPA Palladium.
Oui.
Eh bien, on vous remercie. On va libérer l'antenne pour qu'un autre auditeur puisse nous appeler. Et puis, on vous souhaite un très bon séjour aussi loin de nous. Voilà, ben oui, effectivement, c'est un des collaborateurs de FrenchLinux.net.
Absolument.
Voilà, vous en comptez d'autres au Canada, un au Maroc.
Au Québec, enfin, au Québec. Canada. Mm-hmm. Le Québec est au Canada, mais c'est vrai que les Québécois aiment bien faire la différence, surtout s'ils nous écoutent.
Alors oui, tu parlais de ce qu'on veut quand on veut installer Linux sur une machine, c'est que ça soit simple, etc. Souvent, c'est ce qui rebute un petit peu les gens, parce que c'est vrai que quand on a une machine, sous Windows, le démarrage lui-même de l'ordinateur est une phase un petit peu absconce, dont on espère toujours qu'elle va bien se terminer. Et quand elle se termine pas très bien, tout de suite la panique commence. Alors justement, avoir deux systèmes d'exploitation sur la même machine, ça peut faire peur à des gens. Or, il faut peut-être préciser que c'est extrêmement simple. On peut avoir un multi-boot, comme on dit, c'est-à-dire avoir plusieurs systèmes d'exploitation disponibles au démarrage de la machine pour choisir entre Windows ou Linux. Aujourd'hui, les éditeurs ont fait en sorte que ça ne pose absolument aucun problème. Ça peut même être éventuellement plus simple que certains produits Microsoft.
Ah, moi, je pense que c'est infiniment plus simple. Pour ne prendre que la Mandrake, que je connais vraiment bien maintenant, je peux dire que lorsque j'ai fait plusieurs installations sur des machines de particuliers qui ne sont pas du tout informaticiens, mais de simples utilisateurs qui venaient du monde Windows, l'installation s'est faite très vite d'une part, et ensuite, ils n'y touchent plus. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai un petit coup de téléphone ou un email qui me dit « Tiens, j'ai un petit problème, là, est-ce que tu peux m'aider ?» Je le fais, on résout ça en quelques minutes, mais ça ne dépasse pas ce cadre-là. L'acheteur qui va dans une grande surface pour acheter un ordinateur, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, lorsqu'il achète sa machine, il se retrouve, s'il n'en a jamais vu, avec un Windows devant lui aujourd'hui. Et c'est ça le gros problème. On ne donne pas l'opportunité à l'acheteur de dire « Mais que voulez-vous sur votre machine ?» Il se retrouve d'autorité avec Windows. Donc, il va se retrouver avec une machine qui est plus ou moins stable, selon la machine elle-même et selon la version du système d'exploitation. Et après, moi, tous les gens que je vois aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui viennent dire « j'en ai assez, je suis assailli par les virus, c'est pas stable, ça plante tout le temps, au bout de 3 heures, je suis obligé de rebooter la machine, de la redémarrer, pour parler français ». Eh bien, ces gens-là sont très motivés. Et vraiment, là, je crois qu'il y a un mouvement qui démarre chez l'utilisateur ordinaire qui dit « j'en ai assez, je veux passer à autre chose ». Et comme les gens commencent à connaître l'existence des logiciels libres et leur performance, parce que tu parlais tout à l'heure du prix, mais une distribution Linux, c'est moins de 1000 francs et c'est l'équivalent en logiciel de plus de 40 000 francs.
Voilà. On a un autre auditeur qui est en ligne avec nous. On va le prendre tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, je vous écoute.
Oui, donc je suis Hervé Lefebvre, donc je suis un autre rédacteur de LinuxFrench.net.
Toute la famille.
Et donc je voulais rebondir un peu sur ce qu'évoquait Erwan tout à l'heure, la notion d'information libre, pour expliquer un peu concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire que de plus en plus, en fait, en tant que simple citoyen, on est amené à utiliser de l'information, par exemple pour déclarer ses impôts ou dans l'avenir probablement pour voter. Et le dilemme devant lequel on risque de se retrouver, c'est est-ce que pour voter, je vais être obligé de payer un logiciel commercial? Est-ce que mon vote va passer par des logiciels propriétaires de telle ou telle société? Est-ce que pour déclarer mes impôts, comme tout le monde, je vais devoir utiliser des logiciels propriétaires? On se heurte déjà un petit peu à ce problème-là, parce que bien souvent, hélas, l'administration nous fournit des documents qui sont au format Microsoft Word, par exemple, qui est un logiciel très coûteux.
Alors, je sais qu'on peut d'ores et déjà, pour Microsoft Word, répondre par OpenOffice.
Oui, c'est d'ailleurs grâce à OpenOffice que le logiciel libre commence à s'implanter un peu plus dans l'administration. Parce qu'il propose cette interopérabilité, mais rien n'est gagné, quoi. Word n'est qu'un logiciel. Si on se met à parler, par exemple, de tout ce qui est transactions bancaires, il est extrêmement difficile aujourd'hui, avec un logiciel libre, de se connecter sur sa banque avec un logiciel pour gérer ses comptes, parce que la banque impose certains logiciels propriétaires. Donc en fait, pour avoir le droit d'avoir ses relevés de compte de manière électronique, il faut payer à Microsoft, par exemple, un logiciel. On peut craindre que ça ne se généralise pour, par exemple, le concept de vote électronique ou pour les déclarations de revenus. Enfin, ce sont que des exemples.
Peut-être Albert, une réaction par rapport à ça ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Hervé. Effectivement, c'est un des principaux problèmes. On pourrait aussi lier le problème matériel dont commençait à parler Jean-Claude, qui est lié à la vente obligatoire d'un ordinateur avec Windows, ce qui est, pour le particulier du moins, une chose qui est interdite par la loi. Et ce qu'on appelle en fait de la vente forcée. Et ça, la loi en France, elle interdit. Et pourtant, c'est fait tous les jours par tous les constructeurs et dans toutes les grandes surfaces ou dans tous les magasins. Et là, ça par contre, c'est non plus pas très normal.
C'est un peu comme si on vous oblige à acheter l'intégrale de Gainsbourg quand vous achetez un baladeur disque laser, par exemple. On vous oblige à utiliser certains produits avec votre matériel, quoi.
Alors, en parlant d'obligation, on va remercier Hervé déjà, parce qu'il faut qu'on libère la ligne pour d'autres personnes qui peuvent éventuellement appeler. Merci en tout cas, je crois que vous vous êtes tous donné le mot sur LinuxFrench.net.
L'information circule bien chez nous.
Si je peux rajouter quelque chose, ce que j'apprécie là, c'est qu'on voit que Linux ne s'adresse pas uniquement à des techniciens, à des informaticiens, mais qu'il y a aussi une philosophie derrière, une manière de penser.
Alors, à l'antithèse de la philosophie linuxienne, on retrouve celle de Microsoft avec ce projet qui a fait déjà fait beaucoup couler, j'allais dire d'encre, en tout cas de pixels sur les forums questions-réponses, le projet TCPA Palladium. Alors peut-être expliciter déjà en quelques mots de quoi il retourne.
Alors TCPA, ça veut dire Trust Computing Platform Alliance. Et en termes américains et dans leur jargon à eux, c'est ordinateur informatique de confiance. Mmh. Mais il faut bien savoir que informatique de confiance, c'est aussi défini comme l'informatique à laquelle on ne peut pas du tout faire confiance.
En tant qu'utilisateur. Oui.
Voilà, mais parce que ça veut dire qu'on remet tous ses droits dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'avec un ordinateur qui est sous TCPA et Palladium, TCPA c'est une plateforme technique. Palladium,
c'est du hard, c'est-à-dire que voilà, les cartes mères que vous pouvez être amené à acheter aujourd'hui et qui viennent de sortir il y a 2-3 mois sont déjà en hard, c'est-à-dire physiquement équipées de ce TCPA.
Voilà, c'est pas vrai pour toutes les cartes mères, mais il y en a déjà un certain nombre qui sont déjà équipées de cette puce qui est appelée la puce Fritz, du nom d'un sénateur américain. Et à côté de ça, Palladium, c'est la réponse Microsoft à ce problème-là, entre guillemets, d'informatique de confiance, qui lui a inséré dans la prochaine version de son système d'exploitation un certain nombre de protocoles qui vont faire que on va vérifier, enfin, Microsoft et les éditeurs de logiciels vont être à même de vérifier sur votre machine dès l'instant où elle est reliée à l'Internet un certain nombre de choses, la validité de vos informations. Si vous publiez quelque chose sur un site internet et que ça leur déplaît, ils auront la possibilité d'effacer purement et simplement les données sur votre ordinateur et sur tout le réseau, et de contrôler, d'empêcher l'interopérabilité aussi entre les
machines,
entre les différentes applications. Je veux dire, à l'heure actuelle, par exemple, on parlait de Word et de OpenOffice. OpenOffice est entièrement, enfin récupère les formats Word sans problème.
Si, et exporte les documents au format Word sans aucun problème.
Sous ce format. Si Palladium voit le jour, il verra peut-être le jour techniquement, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement il aura une vraie existence, mais si cette existence-là se développe, il est fort probable que OpenOffice ne pourra plus, pourra peut-être lire les documents Word, mais en tout cas ne pourra plus renvoyer des documents au format Word vers des machines qui sont sous Word, parce qu'il suffira que Microsoft interdise la provenance de ces documents. Voilà. Donc c'est gravissime cette initiative. Ça remet en cause nos droits les plus fondamentaux sur notre vie privée.
Est-ce que c'est aussi un système qui peut scanner votre disque dur pour voir ce monsieur, alors il a visité des sites de pornographie, il a téléchargé des MP3 sur telle ou telle application, il a fait des copies de ceci ou de cela, son logiciel de jeu n'est pas une version originale, etc. Est-ce qu'après on peut faire la chasse aux particuliers?
Absolument.
En envoyant la facture, en disant vous devez tant
c'est
à...
C'est même l'objectif initial de ce projet, c'est-à-dire de permettre aux grandes compagnies des multimédias, que ce soit le cinéma, les éditeurs de disques et bien d'autres, de contrôler tout ce qu'il y a sur les ordinateurs pour empêcher le piratage.
Et de bloquer les machines.
Alors devant cette perspective qui nous fait froid dans le dos, on va se réchauffer avec un nouvel auditeur qui est en ligne avec nous. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Oui. Voilà ce que je voulais intervenir, parce que moi je viens d'acheter un ordinateur. Bien sûr, il y avait Windows qui a été livré avec. Mais s'il n'y avait pas eu Windows, là, je ne sais pas comment j'aurais fait marcher l'ordinateur. Par contre, moi, j'aurais bien aimé avoir Linux aussi. Simplement, comme je l'utilise pour aussi professionnellement, pour faire des saisies là, avec la caisse d'assurance maladie, on est obligé d'acheter un logiciel qui s'appelle Vega.
Oui.
Est-ce que j'aurais pu utiliser ce Vega sur, par exemple, avec Linux? Et ça, je n'en savais rien. Donc j'ai pris Windows. Voilà.
En fait, vous posez plusieurs questions. La première, vous auriez pu acheter un ordinateur effectivement sans Windows.
Oui.
Vous auriez pu aller après, soit en allant dans un marchand de journaux ou en allant par exemple dans des Asorams pour le citer, acheter une version de Linux. Vous n'auriez pas eu absolument besoin d'avoir un système d'exploitation avec. C'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui d'acheter son ordinateur sans système. Sauf en fait, bizarrement, chez les assembleurs, qui sont en fait des petits commerçants, Ce qui est assez amusant, parce que les grandes surfaces et les grands groupes de vente d'ordinateurs, qui eux ont les moyens, ne proposent que des systèmes propriétaires. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il existe sous Linux même des applications propriétaires, on en trouve aussi, qui permettent aux sociétés de gérer d'une part leur saisie, de gérer les factures, la paye, de gérer leur comptabilité.
Oui, mais en même temps, donc c'était avec la, qu'on s'appelle la sécurité sociale. Et eux, ils ont, enfin, ils obligent d'avoir certains logiciels qui soient compatibles avec leur, leur système.
Il y a un logiciel qui est propriétaire sous Linux qui s'appelle. Attendez, j'essaie de me rappeler.
C'est ça le problème, c'est-à-dire nous, quand on a commencé, parce qu'on était obligé aussi d'acheter l'ordinateur pour pouvoir continuer à travailler,
Il fallait partager ce logiciel.
Il faut prendre ça, on est allé voir une
Même sans ça, vous pourriez utiliser Vega à partir de Linux, car il existe sous Linux une application qui s'appelle Wine, qui est en fait un émulateur Windows, qui permet d'utiliser des applications Windows sans le posséder.
Ah oui.
On peut utiliser, ça c'est amusant d'ailleurs.
Est-ce qu'il est fait, lorsqu'on a déjà Windows, de faire une partition sur l'ordinateur pour placer aussi Linux?
Tout à fait, c'est aussi tout à fait possible d'avoir les deux systèmes, soit sur le même disque dur, soit sur des disques durs séparés, sur le même ordinateur, c'est bien sûr tout à fait possible.
Ah oui, d'accord. Oui.
Peut-être rajouter aussi que devant la voracité commerciale de certains éditeurs de logiciels internationaux, en ce moment même, il y a beaucoup d'administrations qui sont en train de faire le pas pour abandonner les versions commerciales Microsoft vers Linux, parce que en termes de coûts, pour une administration équiper 10 000 postes en Windows, ça coûte évidemment horriblement plus cher que d'équiper 10 000 postes sur des versions Linux. Donc peut-être que la sécurité sociale d'ici quelques semestres sera entièrement équipée Linux et que le problème avec Vega ne se posera plus vraiment. Mais comme le disait Albert, il y a des émulateurs Windows sous Linux qui permettent effectivement d'utiliser des applications.
Et je crois qu'il y a une application qui s'appelle Jika qui permet justement de faire le lien. Je crois que c'est déjà compatible. Je ne me rappelle plus
le nom tout à l'heure. Au courant, quoi, en fait.
C'est comme Vega. Je ne connaissais pas Vega.
Oui, nous aussi on ne connaissait pas. Puis comme il a fallu en acheter un.
Voilà, c'est en cherchant qu'on découvre toujours ce dont on a besoin.
Oui.
Et effectivement, voilà.
Ça coûte cher aussi comme logiciel.
Les logiciels propriétaires sur Linux sont beaucoup beaucoup moins chers que ce que vous pouvez trouver sous des systèmes comme Windows ou macOS.
Oui, une précision.
Je vous remercie.
De rien.
Une précision sur ce problème des logiciels commerciaux sous Linux. Ils sont importants et il y en a plusieurs qui correspondent justement aux besoins des entreprises. Là, on vient de parler de comptabilité et de gestion commerciale, et Jika et Frigika, qui est totalement libre et gratuite pour une petite entreprise qui permet de faire sa comptabilité en étant conforme à la loi et reconnue par les experts comptables. Mais ça touche aussi bien d'autres domaines, dans les domaines de l'électronique, dans les domaines de l'optique, dans les domaines de la chimie, de la biochimie, il y a beaucoup de logiciels qui sont soit libres, soit propriétaires et qui permettent à des professionnels de travailler. Donc il faut bien avoir ça en tête. Je veux dire, aujourd'hui, le logiciel libre, ce n'est pas que pour le particulier, c'est pour tout le monde.
À l'heure actuelle, une entreprise peut utiliser pour sa gestion commerciale, pour son suivi, pour son travail en interne avec ses employés, des solutions libres.
Alors on le voit bien avec la toute dernière campagne de publicité du géant américain IBM qui tout d'un coup met très en avant ses serveurs sous Linux avec l'argument clé ça ne tombe jamais en panne donc la responsable réseau peut partir à la plage l'après-midi en prétextant une panne informatique au grand désespoir de tous. Est-ce que ce revirement de la part d'un géant historique, même si c'est plus le numéro un aujourd'hui, mais de l'informatique, est-ce que ce annonce pas justement cette deuxième vague importante de Linux?
Alors moi je pense que si, effectivement, la position d'IBM, mais il n'y a pas qu'IBM, IBM est le constructeur et le distributeur de systèmes informatiques qui a vraiment fait une campagne très importante et accessible à tout le monde, puisqu'on la voit à la télévision.
Oui, tout à fait.
on la voit dans la presse écrite aussi, mais les autres fournisseurs ou fabricants d'ordinateurs, en France, Bull par exemple, seule société française à construire de gros systèmes, propose des solutions sous Linux. Sun, qui est aussi une très très grande entreprise informatique, propose des serveurs sous Linux. Je veux dire, aucun grand constructeur aujourd'hui n'échappe à Linux pour des raisons de sécurité d'une part et aussi pour des raisons d'indépendance. Dire, ils ne sont prisonniers d'aucun éditeur de logiciels. Or, la menace, parce que ces gens-là, dans ces grandes sociétés, la menace de TCPA Palladium, c'est pas seulement pour les particuliers, c'est pas seulement pour la préservation du droit des citoyens en tant qu'administration, c'est aussi pour les grandes entreprises. Donc, il y a une nécessité pour ces gens-là de s'investir dans d'autres projets. Comme ils n'ont plus de projet personnel, puisqu'il y en avait, hein, IBM avait son propre système d'exploitation, Sun avait son propre système d'exploitation qui était un Unix. Maintenant, la solution la plus, à la fois la plus économique et aussi celle qui garantit le développement de leur structure à long terme, c'est New Linux.
Alors, tu mentionnais le problème économique. C'est vrai que, à regarder un petit peu la façon dont les choses se passent sur l'Internet, cette espèce d'énorme média ouvert sur tout le monde par lequel tout un chacun peut, en se connectant du jour au lendemain, avoir accès à une quantité invraisemblable de documents ou voire de logiciels, etc. Qui pousse derrière TCPA et Palladium, c'est forcément pas les utilisateurs, c'est forcément pas les gens qui développent du libre, c'est forcément pas les entreprises qui pourraient faire de grandes économies en s'équipant Linux et libre. Alors, est-ce qu'il n'y a que Microsoft qui pousse derrière la mise en place de ce système ?
Non, il n'y a pas que Microsoft. Microsoft, c'est un des acteurs privilégiés, mais il y a d'abord tous les services de renseignement américains qui sont à la base de cette initiative, qui veulent pouvoir contrôler toute l'information à sa source et éventuellement la détourner. Ça, c'était l'initiative de départ qui a été décrite dans un livre. Là, j'ai plus les références, mais c'est facile à retrouver. Et ensuite, ça correspond bien aux intérêts particuliers de ce qu'on appelle les majors de l'industrie. Et particulièrement l'industrie du disque, du cinéma, du livre, enfin tout ce que l'on est capable aujourd'hui de reproduire tout un chacun avec soit un magnétoscope, soit un ordinateur. Et pour ces gens, cette possibilité de reproduire les œuvres sans payer des royalties représente, je dis bien représente, mais ce n'est pas forcément la réalité, un manque à gagner considérable. Parce que ce qui représente un manque à gagner, c'est le fait d'être privé d'un circuit de distribution. Mais on a toujours fait, depuis que le magnétophone existe, des copies sur cassette de disques en vinyle, copier ces disques, ces films que l'on voyait à la télévision sur un magnétoscope, et que je sache, personne ne s'est jamais plaint que les éditeurs y avaient perdu quelque chose.
C'est le droit à la copie privée.
Voilà, c'est le droit à la copie privée. C'est inscrit dans notre droit depuis fort longtemps.
Mais il y a une remise en cause de ce droit à la copie privée
en
ce moment.
Il y a une remise en cause, mais cette remise en cause n'est qu'un prétexte. Le fond, c'est la piraterie industrielle qui existe vraiment. Moi, j'ai des amis qui sont musiciens et africains d'origine. Il leur est impossible de diffuser leur musique en Afrique. Mais vraiment impossible, parce que s'ils sortent un CD en Afrique, eh bien, dans l'heure qui va suivre, il va être dupliqué, je veux dire, mais dupliqué à un point tel que l'utilisateur ordinaire ne va même pas voir la différence. J'aime beaucoup les Africains, et les artistes africains en particulier, mais c'est vrai que pour eux, c'est un vrai problème. Et pour les majors de l'industrie du disque, le problème de la copie, il est là. Ça n'a rien à voir avec la copie faite par un particulier. Absolument rien. C'est le TCPA Palladium, c'est empêcher la copie, c'est contrôler l'information jusque
dans son contenu,
contenu, mais jusque sur votre propre machine, et même si elle n'a rien à voir avec une œuvre artistique ou un logiciel piraté. Simplement, on donne la possibilité à quelqu'un de venir fouiller dans votre machine pour dire « ce document-là, c'est de la subversion, on l'efface ». Et on vous prévient pas. C'est ça la question de fond de TCPA Palladium, elle est là. C'est l'atteinte au droit
privée la plus formidable qu'on ait jamais vue. Tous les services, quand on regarde les services secrets de l'ancienne URSS, pour lesquels j'ai beaucoup regardé les choses pendant des années, avec à la fois un œil sympathique et puis en même temps en étant horrifié par certaines méthodes, eh bien là, ces gens-là, on aurait rêvé de ce moyen-là. Mmh. Parce que c'est la Stasi est-allemande a passé 30 ans à essayer de contrôler tout ce que faisaient les habitants, mais TCPA Palladium, c'est l'outil idéal pour pouvoir faire cette chose-là. Mmh. Voilà. Donc il faut absolument que chacun sache les risques dont on est en train de courir.
Je crois qu'on a à nouveau un auditeur en ligne pour une réaction. Allô, bonsoir.
Oui, c'est pour revenir sur un sujet de tout à l'heure, en fait, c'est pas spécialement sur la copie privée.
Oui.
C'est en fait pour savoir, je suis utilisateur de Linux et de Windows. Et en fait, je me posais la question parce que je suis un joueur sur PC. Et je voulais savoir en fait pourquoi il n'y a pas de bons jeux sous Linux, en fait.
Oh, si, il y a des bons jeux sous Linux.
Oui, enfin, il y a des bons jeux, mais enfin, les grands titres, disons, tous les grands jeux sont surtout sous Windows, quoi.
De plus en plus de jeux sortent sous Linux, des jeux propriétaires, on va dire, parce qu'il en existe aussi beaucoup de libres, notamment Unreal Tournament, qui est le dernier jeu à la mode sur les CD que vous achetez d'Unreal Tournament. Mm-hmm. Vous avez sur le troisième CD la version Linux qui vous permet de jouer comme un utilisateur Windows à Unreal Tournament. Autre avantage d'utiliser la version Linux avec Unreal, c'est que vous êtes 20% plus rapide que sous Windows, sur la même machine. Oui. Mais bon, ça c'est une parenthèse. De plus en plus, il existe des logiciels sous Linux qui sont des logiciels de jeu propriétaires, en fait. Toujours la même chose. Mais aussi des jeux libres, et il en existe vraiment beaucoup et d'excellente qualité. Il y a Egobu, qui est un jeu qui ressemble à Zelda, qui est assez connu par les joueurs de console, mais avec le graphisme des OpenGL, enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'OpenGL et tout ça. Donc c'est vraiment avec les dernières technologies. Il y en a de plus en plus, et qui sont maintenant de très très bonnes factures, qui sont l'équivalent de jeux professionnels. Il y a même une société qui s'appelle Nevrax, qui a développé un moteur pour les jeux massivement multijoueurs à la manière de Dark Age of Camelot, et qui a mis ça en logiciel libre. Donc vous pouvez développer votre propre système de jeux grâce à ça, et on atteint aujourd'hui une qualité qui est vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il faut les connaître, il faut partir à leur recherche. Alors si vous êtes un connaisseur de Linux, il y a un site qui fait référence, qui est anglophone, mais qui fait référence, qui s'appelle Linux Game. Et sinon, si vous venez de temps en temps sur linuxfrench.net, on en parle, on essaye justement de parler des jeux, parce que l'informatique aujourd'hui, c'est quand même aussi en partie les jeux. Et on essaye le plus souvent, à part de parler des applications utiles, de parler aussi des jeux, de ce qui se fait de mieux dans le monde du livre. Et là, je peux vous assurer que ces derniers temps, les développeurs font de très très gros efforts. Et on trouve maintenant des jeux qui sont vraiment de qualité, qui sont libres, je précise, donc gratuits, et qui sont vraiment de la qualité de logiciels professionnels.
D'accord. Mais en fait, c'est juste que je suis pas tout à fait d'accord sur la qualité des jeux, et il me semble que c'est un peu le point faible pour l'utilisateur pas professionnel, justement, parce qu'il me semble que le jour où il y aura les mêmes jeux, ou meilleurs jeux, tout le monde sera sous Linux, en fait.
Plutôt l'inverse, plus il y aura de personnes qui utiliseront Linux, plus ça forcera les éditeurs de jeux et les éditeurs d'autres logiciels d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les jeux, à faire tourner leur système sur plusieurs plateformes.
Mm-hmm. Ce qui commence déjà un petit peu. Notamment le cas d'Unreal ou de Quake, qui sont quand même des références, mais il y en a d'autres. Il y a Might & Magic, les Sims aussi, qui ont été portés sous Linux, et il y en a vraiment des tas d'autres propriétaires. Mm-hmm. Mais des jeux libres, venez sur le site ou allez sur Linux Game, vous verrez qu'il y en a des tas, et graphiquement, qui n'ont rien à envier, même au niveau du jeu, du gameplay, comme on dit, qui n'ont rien à envier à leur homologue Windows et macOS. Mm-hmm.
Merci d'avoir pris ma question, et je passe un bonjour à tous les connaisseurs de la flèche.
Très bien, ben on vous remercie à vous. En tout cas, c'est une question qui revient souvent chez les personnes qui s'intéressent à Linux, qui voudraient bien s'y mettre, mais qui effectivement sont des gamers et qui du coup disent ouais, mais alors est-ce qu'on peut renvoyer les gamers justement aux émulateurs Windows qui tournent sous Linux? Est-ce qu'ils sont capables de faire tourner des jeux en 3D?
Déjà oui, tout à fait. Il y a des tas de jeux, grâce aux émulateurs, enfin l'émulateur Wine, et même une version qui s'appelle WineX, vous pouvez faire tourner tous les jeux Windows. Et en général, ce qui est assez amusant, c'est que même en émulation avec ces jeux-là, vous êtes plus rapide sous Windows que sous Linux. Ce qui paraît assez hallucinant. Mais non, sous Linux, sous Windows, pardon, j'ai fait une erreur. Ce qui paraît assez hallucinant, sur la même machine, vous gagnez en général entre 10 et 15 images pour parler, pour les jeux d'arcade, vous gagnez entre 10 et 15 images par seconde, ce qui est déjà pas mal.
Alors évidemment, on pourrait parler de cette problématique pendant toute la nuit. Or, l'heure tourne, il va bientôt falloir se quitter. Peut-être terminer en parlant de justement comment peut-on se prémunir aujourd'hui de cette menace TCPA Palladium. Est-ce que déjà, premièrement, est-ce que, puisque a priori c'est une décision qui vient du privé principalement des États-Unis, est-ce que les gouvernements en Europe peuvent dire ah, excusez-nous, mais nous on veut pas de ça chez nous, gardez votre chip et collez-vous-le?
Oui, on peut le dire. On peut le dire, et ça d'ailleurs a été dit. Enfin, en France, il y a un courant dans l'administration et au niveau du gouvernement, de celui-ci et du précédent, qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on veut absolument garder notre indépendance et le contrôle et la maîtrise de l'information. Mais il y a d'autres pays où c'est encore plus avancé. En Allemagne, par exemple, où il y a eu des dispositions de prise publique et enfin, ça se traduit dans des textes pour obliger les administrations à utiliser des logiciels libres dont on peut tout contrôler. C'est la seule réponse à TCPA Palladium, ce sont les logiciels libres de qualité. Or, ces logiciels existent. Donc, je pense que Microsoft et tous les autres éditeurs, les grands majors de l'industrie américaine, mais aussi
les constructeurs,
les constructeurs et les sociétés multimédia, qu'elles soient américaines ou françaises, parce que les grandes compagnies françaises ne sont pas à la traîne de ce point de vue, auront bien du mal à faire valoir ce système. Moi, j'espère bien qu'il n'aboutira pas.
Mais c'est aussi à tout un chacun à faire valoir ses droits. Et c'est vrai que si on ne dit rien, si on ne fait rien, on risque un jour de se retrouver avec une machine TCPA Palladium et on ne pourra à ce moment-là plus rien faire, ce sera trop tard.
Voilà, mais moi je crois que on peut faire le parallèle. L'actualité a montré qu'il y a quelques jours que une majorité de la population mondiale se manifestant sur un sujet comme la paix peut faire changer les choses, peut-être pas définitivement, mais en tout cas elle peut influencer sur le cours des choses. Et je pense que dans ce domaine aussi, à partir du moment où les gens auront pris conscience de l'importance de la menace qui pèse sur eux, il y aura aussi une autre réponse à porter. Et je pense que les éditeurs auront du mal à faire valoir leurs intentions et leurs intérêts.
Alors pour encourager ceux qui nous écoutent à changer leurs habitudes, faut peut-être noter aussi que au niveau des infections virales, ça arrive souvent par le courrier électronique, et que si vous avez souvent, très souvent, des virus dans votre machine, etc., eh bien demandez-vous si vous n'utilisez pas Outlook Express, le logiciel Microsoft, pour votre courrier, parce qu'il a la réputation depuis plus de 5 ans d'être une véritable passoire quand on le compare au produit Sun, à savoir Netscape, au niveau du courrier qui
Netscape, c'est pas...
c'est pareil.
C'est Netscape, ah non, c'est AOL.
AOL. Enfin, c'est maintenant, AOL. Mais Netscape avait été développé, il me semble, pas par AOL. Ça a été racheté par AOL.
Ça a été racheté, oui.
Mais il me semble qu'au départ, c'était Sun. Ou alors c'est...
En partie, oui.
Voilà,
c'est
en partie. Oui. Donc, la boîte aux lettres, enfin, le logiciel de courrier Netscape est beaucoup moins perméable aux intrusions que son cousin Outlook. Donc essayez de changer d'application déjà, ou
ce qu'on peut dire aussi, c'est
peut-être
qu'il existe,
que vous aurez moins de soucis.
C'est qu'il existe aussi pour les utilisateurs de Windows des logiciels libres.
Oui.
Même si nous on prône d'utiliser des systèmes libres complètement, il y a des logiciels libres, que ce soit OpenOffice, que ce soit Netscape, il n'est pas libre, mais Mozilla, son équivalent, duquel Netscape est tiré en fait, parce que Netscape utilise le moteur technique de Mozilla.
Voilà.
Mais il y a des tas d'autres applications pour faire du dessin, comme GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop,
comme d'autres logiciels que vous pouvez trouver sur Internet. Si vous avez un accès, vous pouvez taper l'adresse GNUWIN, alors ça s'appelle GNUWIN.org. Et là, vous trouverez un CD sur lequel vous trouverez quasiment toutes les applications disponibles pour
libre
Windows,
pour
en logiciel
Windows.
Libre.
Mmh. Tout à fait. Très bien, je crois qu'on va être obligé de se quitter là. En tout cas, je vous remercie à tous les trois. Albert Bruck et Jean-Claude Stiegler de linuxfrench.net avec 3W devant pour
C'est pas obligatoire.
Pas obligatoire, ça marche dans tous les cas. Et puis on va peut-être avant de se quitter tout à fait demander à Anthony de nous dire un petit peu des choses sur le CM parce qu'il va y avoir plein de choses sur Linux, sur le libre. Je pense que il va s'agir aussi la fête du net et du libre qui sera axée sur ce thème. Et puis tout au long de l'année, vous proposez des choses autour de Linux.
Ouais, en fait, l'année, là, on la consacre à la création numérique sous Linux. Et c'est pas un travail simple. On commence, en fait, avec une soirée pour la fête de l'Internet le mardi 18 mars à 20h30 avec comme intervenant Jean Bort, qui va nous parler du libre et de la philosophie du libre en général. Mm-hmm. Et après, on va attaquer sur la création sous Linux avec des logiciels comme GIMP, Cinelera, Blender, Solidity, etc. parce qu'il existe des logiciels. Les soirées s'adressent en partie à des concepteurs multimédia suite à un partenariat avec le SUFCO. Donc ça s'adresse aussi aux gens qui s'y intéressent dans un domaine professionnel. Mmh. Voilà.
Au-delà de ça, un rendez-vous
Sinon, on fait une soirée. Là, c'est plus une soirée participative et ludique pour la fête de l'Internet. Ce sera soit le vendredi, soit le samedi. Je trouve les dates, soit le 21, soit le 22 mars. Là, ce sera une soirée participative sous GIMP. Les gens feront en fait des retouches d'images sous GIMP et l'enverront sur un serveur. On aura une animation, etc. Donc, vous pouvez venir sur le site de l'ECM Kawanga pour voir plus de précisions sur la date bientôt. Je peux donner le numéro de l'ECM, juste.
Tout à fait.
Donc c'est le 04 67 06 51 66 ou le site diagokawanga.com.
Voilà, et puis on en reparlera de toute façon sur l'antenne de Divergence, je pense, d'ici là. Un dernier mot, Albert.
Oui, je voulais dire que pour ceux qui sont intéressés par Linux et le ciel libre, il y a tous les derniers jeudis du mois une réunion qui se passe, une rencontre qui se passe à Montpellier, à la brasserie Le Triolet. De 20h à 1h du matin.
Voilà, c'est les last jeudi
de Montpellier.
Voilà, qui ont leur site internet aussi.
C'est
lastjeudi.org. Voilà, tout est dit. Merci Albert, Jean-Claude et Anthony. On va se quitter avec un petit peu de musique. C'est Indian Ropeman. Et puis on vous rappelle, 3W ou pas. En tout cas, linuxfrench.net. Et puis le CM Diago Kawanga. Et puis 3W.divergence-fm.com. Et puis voilà, merci à tous les trois.
Merci à toi.
Merci.
Au revoir.